Lettre de A. Van Helsing à Mrs. G. Harker. 25 septembre, 6 heures du soir. Chère Madame Mina, j'ai donc lu l'étonnant journal de votre mari. Soyez tranquille, n'ayez plus le moindre doute. Aussi étrange, aussi terrible que tout cela puisse être, tout cela est vrai. J'en suis absolument certain. Pour d'autres, cela pourrait signifier le pire. Pour lui et pour vous, il n'y a au contraire rien à redouter. Votre Jonathan est un homme courageux, décidé. Laissez-moi vous dire, et je parle d'expérience, m'étant penché sur bien des cas, que celui qui a osé descendre le long du mur et entrer dans cette chambre comme votre mari l'a fait, oui, et cela à deux reprises, celui-là ne souffrira pas sa vie durant du choc qu'il a pu recevoir. Ses facultés mentales et affectives sont intactes. Je puis vous le jurer avant même d'avoir vu votre mari. Soyez tout à fait rassuré à ce sujet. Cependant, je voudrais l'interroger à propos d'autre chose. Je me félicite d'être allé vous voir aujourd'hui, car j'en ai tant appris en une fois que, de nouveau, je suis comme ébloui. Ébloui, je l'avoue, comme jamais. Et il me faut encore beaucoup réfléchir. Votre tout dévoué, Abraham Van Helsing.
Mrs. Harker au docteur A. Van Helsing, 25 septembre, 6h30 du soir. Mon cher docteur Van Helsing, je vous remercie mille fois pour votre aimable lettre qui m'a tellement rassurée, oui. Et pourtant, si tout cela est vrai, comme vous le dites, quelles choses affreuses peuvent exister en ce monde. Et se peut-il, hélas, que cet homme, ce monstre, soit à Londres? J'ai peur à cette seule pensée. Je reçois à l'instant, pendant que je vous écris, un télégramme de Jonathan, m'annonçant qu'il quitte Launceston ce soir à 6h25 et qu'il arrivera ici à 10h18. Voulez-vous peut-être, au lieu d'être des nôtres demain à midi, venir partager notre petit déjeuner à 8h, si ce n'est pas trop tôt pour vous? Au cas où vous seriez pressé, vous pourriez partir par le train de 10h30, qui arrive à Paddington à 2h35. Ne répondez pas à ce mot. Si je ne reçois rien de vous, je vous attends pour le petit déjeuner. Croyez-moi, je vous prie, votre reconnaissante et fidèle amie, Mina Harker.
Journal de Jonathan Harker, 26 septembre. Je pensais ne jamais reprendre ce journal, mais il me semble que je doive à nouveau écrire. Quand je suis rentré à la maison hier soir, Mina m'attendait pour souper, et notre repas une fois terminé, elle m'a raconté la visite de Van Helsing et m'a dit qu'elle lui avait donné une copie de son journal et une copie du mien. Et pour la première fois, elle m'avoua à quel point elle avait été inquiète à mon sujet. Mais elle me montra immédiatement la lettre du docteur où il affirme que tout ce que j'ai écrit dans mon journal est la vérité même. Depuis que j'ai lu cela, j'ai l'impression d'être un autre homme. Le doute où j'étais de la réalité de cette aventure me plongeait dans un abattement d'où, me semblait-il, je ne sortirais jamais. Je sentais en moi une sorte d'impuissance à agir, tout m'était obscurité, sujet de méfiance. Mais à présent, je sais. Je n'ai plus peur de rien ni de personne, pas même du comte. Après tout, il avait l'intention de venir à Londres, et il est venu. C'est lui que j'ai vu l'autre jour. Il a rajeuni. Comment y a-t-il réussi ? Van Helsing est l'homme qui va le démasquer, le chasser à tout jamais de notre vie, si Van Helsing est bien tel que Mina le décrit. Mina s'habille et dans quelques minutes je vais aller prendre le professeur à son hôtel. Il a paru assez surpris quand il m'a vu. J'entrai dans sa chambre et dès que je me fus présenté, il me prit par les épaules, me fit tourner sur moi-même de sorte que mon visage fut alors en pleine lumière et après l'avoir sérieusement examiné, il s'étonna. « Mais Madame Mina m'a dit que vous étiez malade, que vous aviez reçu un choc. » C'était assez drôle d'entendre ce vieil homme appeler ma femme Madame Mina. Je souris en lui répondant « Oui, j'ai été malade, j'ai reçu un choc, mais vous m'avez déjà guéri. »«
Guéri ?
Et comment ? » ?»« En écrivant à Mina la lettre que vous lui avez envoyée hier soir. » Je doutais de tout. Tout se teintait pour moi d'irréel. Je ne savais pas ce qu'il me fallait croire. Je me méfiais même de ce que j'éprouvais. Et ne sachant pas ce qu'il me fallait croire, je ne savais pas non plus ce que je devais faire. Je sentais que je continuerais toujours à suivre l'ornière, mais D'autre part, je souffrais de ce que mon travail devenait de plus en plus une sorte de routine, et c'est alors que je commençais à ne plus croire même en moi. Docteur, vous ne savez pas ce que c'est que de douter de tout et de soi-même. Non, vous ne savez pas, c'est impossible. On le devine rien qu'à voir votre front. Il parut amusé et dit en riant, « Oh, vous êtes physionomiste. Depuis que je suis ici, j'apprends de nouvelles choses d'heure en heure. C'est avec le plus grand plaisir que je partagerai votre petit déjeuner. » « Oh, monsieur, vous permettrez, n'est-ce pas, au vieillard que je suis, de vous parler sincèrement? Vous êtes heureux d'avoir une femme telle que la vôtre. » Une journée entière, je l'aurais écouté faire l'éloge de Mina, de sorte que j'acquiesçais d'un simple signe de tête et demeurais silencieux. Elle est vraiment une femme de Dieu. Il l'a faite de sa propre main pour nous prouver à nous les hommes et aussi aux autres femmes qu'il existe un paradis où nous entrerons un jour et que dès maintenant sa lumière peut nous éclairer sur la terre. Un être si fidèle à soi-même et aux autres, si doux, si généreux, qui se donne tout entier à son entourage, cela, laissez-moi vous le dire aussi, c'est rare et c'est de ce fait beaucoup dans notre siècle de scepticisme et d'égoïsme. Et vous, monsieur ? J'ai lu toutes les lettres de votre femme à la pauvre Miss Lucie, et beaucoup de ces lettres parlent de vous. Je vous connais donc depuis quelques jours déjà, grâce à ceux qui vous connaissaient, mais ce que vous êtes réellement, je le sais seulement depuis hier soir. Tenez-moi la main, voulez-vous, et soyons amis pour toujours. » Nous nous serrâmes la main. Cette cordialité, si sincère, m'émut profondément. « Et maintenant, me dit-il, puis-je vous demander de m'aider encore? J'ai devant moi une tâche importante à accomplir et pour cela, avant toute autre chose, il me faut savoir. C'est ici que j'ai besoin de votre aide. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé avant votre départ pour la Transylvanie? Plus tard, peut-être, aurai-je encore recours à vous, mais pour résoudre des questions d'ordre différent. Que vous répondiez à celle-là, voilà qui me suffira pour le moment. » « Mais, monsieur, fis-je, je ne vois pas le rapport à établir entre le comte et l'affaire dont vous vous occupez. »« Il y en a un, pourtant, » répondit-il avec gravité. « Dans ce cas, comptez sur moi. » Après le petit déjeuner, je le conduisis à la gare. Au moment de nous séparer, il me dit, « Pourriez-vous venir à Londres, si je vous le demande, et y venir avec Madame Mina? Nous viendrons tous les deux quand cela vous conviendra. » Je lui avais acheté les journaux du matin ainsi que les journaux de Londres du soir précédent, et tandis que nous bavardions à la portière du compartiment en attendant le départ du train, il les feuilletait. Son attention parut soudain attirée par un titre de la Westminster Gazette, et aussitôt, il blêmit. Il lut quelques lignes, et je l'entendis murmurer avec effroi, « mon Dieu, déjà, déjà !» Je crois que dans son émotion, il avait même oublié ma présence. Le sifflet retentit et le train s'ébranla. Rappelé alors à la réalité, Van Helsing se pencha à la portière, agita la main et me cria « Toutes mes amitiés à Madame Mina, j'écrirai dès que je le pourrai. » Journal du docteur Seward. 26 septembre. Au fond, rien n'est jamais fini. Une semaine ne s'est pas écoulée depuis que j'ai écrit le mot « fin », et voilà pourtant qu'aujourd'hui je reprends ce journal, que je recommence même à parler des mêmes choses. Jusqu'à cet après-midi, du reste, je n'avais aucune raison de penser à ce qui appartient déjà au passé. Renfield est plus calme que jamais. Il s'était depuis quelque temps remis à s'occuper de ses mouches. Maintenant, ce sont ses araignées qui lui prennent des heures entières. Pour le moment, il ne me cause donc plus aucun ennui. Je viens de recevoir une lettre d'Arthur écrite dimanche, et d'après tout ce qu'il me dit, je conclus qu'il se porte bien. Quincy Morris est auprès de lui, ce qui, je crois, l'aidera à se remettre des coups terribles qui viennent de le frapper, car ce Morris est un garçon dynamique et plein d'entrain. D'ailleurs, celui-ci m'a écrit également, et il m'apprend qu'Arthur retrouve un peu de sa gaieté. De ce côté-là aussi, je suis tranquille. En ce qui me concerne, je me remettais peu à peu au travail avec mon enthousiasme de naguère, et j'aurais très bien pu dire à mon tour que la blessure dont je souffrais à cause de la pauvre, de l'innocente Lucie, se cicatrisait de jour en jour. Hélas, la voilà rouverte. Et comment tout cela finira, Dieu seul le sait. Il me semble que Van Helsing croit le savoir, lui, mais il n'en dit jamais trop en une fois afin d'aiguiser la curiosité. Hier, il est allé à Exeter, d'où il est revenu aujourd'hui seulement. C'est vers 5 heures qu'il est entré dans mon bureau en se précipitant vers moi pour me tendre l'édition d'hier soir de The Westminster Gazette. « Que pensez-vous de ceci ?» me demanda-t-il en reculant ensuite, les bras croisés. Je parcourus rapidement des yeux le journal car je me demandais à quoi il faisait allusion, mais revenant vers moi, il me l'arracha et pointa du doigt un article où il était question d'enfants disparus aux environs d'Hampstead, mais que l'on avait retrouvés. Cela ne me frappa point particulièrement jusqu'au moment où je lus qu'ils portaient tous à la gorge de petites blessures, comme s'ils avaient été mordus. Alors, une idée me traversa l'esprit et je levai les yeux sur Van Helsing. « Eh bien, » fit-il, « c'est ce qui est arrivé à la pauvre Lucie. Et comment expliquez-vous cela ? Tout simplement, la cause est la même. Ce qui l'avait blessée, elle, a aussi blessé les enfants. C'est vrai. Indirectement, mais non pas directement. Que voulez-vous dire, professeur ? » Vraiment, je n'avais rien compris à sa réponse. Et j'étais enclin à prendre son sérieux un peu à la légère, car après tout, un repos de 4 jours après les terribles et épouvantes anxiétés que nous avions vécues m'avait rendu un peu de sens critique. Mais lorsque je vis l'expression de son visage, je changeai de ton. Jamais, même quand la maladie de Lucie nous mettait au comble du désespoir, Van Helsing ne m'avait paru à ce point consterné. « Quelle est votre pensée ? Expliquez-vous. Pour moi, vraiment, je ne sais qu'imaginer. » Vous n'allez pas me faire croire, mon cher John, que vous ne vous doutez nullement de ce qui a pu provoquer la mort de la pauvre Lucie. Non seulement les événements devraient vous y aider, mais aussi les commentaires, les réflexions que j'ai pu faire devant vous. Prostration nerveuse due à de trop grandes pertes, à un trop grand gaspillage de sang. Et ces pertes de sang, ce gaspillage, comme vous dites, sont dues à quoi ? Je hochai la tête, il vint s'asseoir à côté de moi et reprit. « Vous êtes intelligent, mon cher John. Vous raisonnez de façon très juste et vous avez l'esprit ouvert, mais vous avez aussi des préjugés. Vous ne laissez pas vos yeux voir, ni vos oreilles entendre, et tout ce qui ne fait pas partie de votre vie quotidienne, vous n'en tenez guère compte. Ne pensez-vous pas qu'il y a des choses qui, même si vous ne les comprenez pas, existent cependant, et que certains d'entre nous voient ce que d'autres ne voient pas ? Mais il y a des choses que les hommes ne peuvent percevoir parce qu'ils en connaissent ou pensent en connaître d'autres qu'on leur a enseignées. Ah, c'est bien là le défaut de la science. Elle voudrait tout expliquer. Et quand il lui est impossible d'expliquer, elle déclare qu'il n'y a rien à expliquer. Pourtant, nous voyons partout et chaque jour apparaître de nouvelles théories, ou plutôt qui se disent nouvelles. En vérité, elles sont vieilles, mais prétendent être jeunes, tout comme ces belles dames que l'on voit à l'opéra. Bon, maintenant je suppose que vous ne croyez pas à la transmutation des corps, non ? Ni à la matérialisation, non ? Ni au corps astral, non ? Ni à la lecture de la pensée, non ? Ni à l'hypnotisme ? Si, Charcot nous a donné assez de preuves. En souriant, il poursuivit. Donc à ce sujet, vous êtes convaincu. Et naturellement, vous en comprenez le mécanisme et vous suivez parfaitement la démonstration du grand Charcot. Hélas, il n'est plus quand il explique ce qui se passe chez le patient, non ? Alors, mon cher John, dois-je comprendre que vous acceptez tout simplement le fait, le résultat, sans rien approfondir d'autre ? Non ? Mais dites-moi donc, car je suis un spécialiste des maladies mentales, ne l'oubliez pas. Dites-moi donc comment il se fait que vous acceptiez l'hypnotisme tout en rejetant la télépathie ? Laissez-moi vous le dire, mon ami. De nos jours, on réalise à l'aide de l'électricité des choses que ceux-là même qui l'ont découverte auraient jugées sacrilèges et à cause desquelles, les eussent-ils eux-mêmes commis à l'époque, ils se seraient vus condamnés au bûcher pour sorcellerie. La vie est toujours pleine de mystères. Pourquoi Mathusalem a-t-il vécu 900 ans, alors que notre pauvre Lucie, malgré le sang de 4 hommes injectés dans ses veines, n'a pu survivre un seul jour ? Car si elle avait survécu un seul jour, nous aurions pu la sauver. Connaissez-vous entièrement le mystère de la vie et de la mort ? Connaissez-vous tout de l'anatomie comparée ? Et pouvez-vous dire pourquoi certains hommes ont les caractéristiques de la brute et d'autres pas ? Pouvez-vous m'expliquer pourquoi, alors que les autres araignées meurent jeunes, cette araignée géante qui a vécu pendant des siècles dans la tour de la vieille église espagnole s'est mise à grandir jusqu'au jour où elle a pu descendre boire l'huile que contenaient toutes les lampes du temple? Pouvez-vous m'expliquer pourquoi, dans la Pampa et aussi ailleurs du reste, des chauves-souris viennent la nuit ouvrir les veines non seulement du menu bétail, mais des chevaux, et boivent jusqu'à la dernière goutte de leur sang? M'expliquer comment il se fait que, dans certaines îles des mers occidentales, des chauves-souris, encore elles, restent suspendues aux arbres pendant toute la journée, puis, quand les marins se sont endormis sur le pont des navires à cause de la chaleur, fondent sur eux, si bien qu'on les trouve morts au matin, exsangues, comme l'était la pauvre Miss Lucie. « Bon Dieu, professeur, m'écriai-je, voulez-vous me faire entendre que Lucie a été victime d'une chauve-souris et qu'une chose semblable peut se passer ici, à Londres, au XIXe siècle ?» D'un geste, il m'imposa silence et reprit. « Pouvez-vous m'expliquer pourquoi les tortues vivent plus longtemps que des générations d'hommes? Pourquoi l'éléphant voit disparaître les dynasties humaines l'une après l'autre? Et pourquoi le perroquet ne meurt que s'il est mordu par un chat ou par un chien, ou s'il souffre de quelque autre mal ?» Pouvez-vous me dire pourquoi des hommes, en tout temps et en tout lieu, ont cru que certains sont appelés à vivre éternellement? Nous savons tous, la science l'affirme, que des crapauds sont restés pendant des milliers d'années dans le même petit trou sous des rochers. Pouvez-vous me dire pourquoi le fakir de l'Inde peut se donner la mort et se faire enterrer, faire sceller son tombeau et y faire semer du blé? Pourquoi on en sème encore après la première récolte et pourquoi, lorsque ce nouveau blé est coupé, des hommes viennent enlever le seau et trouvent étendu dans son tombeau le fakir, non pas mort, mais qui se lève aussitôt pour marcher parmi eux? Il s'interrompit. Pour moi, il me semblait que j'allais perdre la tête. Van Helsing me farcissait l'esprit de tant d'excentricité de la nature, de tant d'impossibilités qui devenaient tout à coup possibles, que mon imagination prenait feu. Je me doutais vaguement qu'il voulait me démontrer quelque chose, comme autrefois à Amsterdam. Seulement alors, il m'indiquait l'objet de son cours afin que je l'eusse tout le temps à l'esprit. Aujourd'hui, je n'étais pas soutenu par ce point de départ, et pourtant, je ne désirais rien tant que suivre son idée et les développements qu'il allait en donner. « Professeur, lui dis-je, laissez-moi à nouveau être votre étudiant préféré, dites-moi le sujet que vous traitez, afin que je puisse appliquer vos théories à mesure que vous les avancez. Pour le moment, c'est comme un fou et non pas comme un homme sain d'esprit que j'essaye à grand-peine de relier les exemples que vous prenez. J'ai l'impression d'être un enfant pataugeant dans un marécage partant de brouillard et sautant d'une touffe d'herbe sèche à une autre sans savoir où je vais. « Ah, ma foi, l'image est bonne, » dit-il. « Eh bien, je vais vous dire tout de suite où je veux en venir. Je veux que vous croyez. Que je crois ? Oui, que vous croyez à des choses auxquelles jusqu'ici vous ne croyez pas. Laissez-moi vous expliquer. Un jour, j'ai entendu un Américain définir ainsi la foi, une faculté qui nous permet de croire à des choses que nous savons n'être pas vraies. Je saisis parfaitement l'idée de cet homme. Il veut que nous gardions l'esprit ouvert, que nous ne laissions pas une toute petite vérité arrêter le progrès d'une vérité plus grande. C'est cette vérité infime que nous appréhendons d'abord. Nous l'estimons à sa juste valeur, mais nous ne devons pas lui laisser croire qu'elle est toute la vérité de l'univers. Vous voulez donc que des idées préconçues ne m'empêchent pas d'en accepter d'autres plus extraordinaires ? Ah, vous êtes toujours mon meilleur élève. On ne perd pas son temps à vous expliquer quelque chose. Maintenant que vous voulez chercher à comprendre que vous avez fait le premier pas, vous allez comprendre. Donc vous pensez que ces petites blessures à la gorge des enfants ont la même origine que celles que nous avons vues à la gorge de Miss Lucy ? Oui, je suppose. Il se leva. Vous vous trompez, déclara-t-il. Oh, s'il en était ainsi, mais hélas, non. La vérité est bien plus terrible, bien plus terrible. Pour l'amour de Dieu, professeur, que voulez-vous dire ? Avec un geste désespéré, il se laissa tomber sur une chaise et les coudes sur la table, se couvrit le visage des deux mains, cependant qu'il m'avouait « Ces enfants ont été victimes de Miss Lucie elle-même. »